Alors finalement, on va ce matin rester dans ce même thème qui l'Esprit a imposé sur le culte ce matin. Et bon, je ne vais pas vous embarrasser en demandant si vous vous souvenez de ce qu'a dit Alain la semaine dernière, mais je vais commencer là où il a terminé. La semaine dernière. La conclusion, la semaine dernière, c'était de savoir quelle était votre odeur. Comment vous sentez ou de quoi vous sentez? Quelle est l'odeur qui se dégage de notre vie? Et donc, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Le début de ce paragraphe qui termine le chapitre 2 de cette lettre est très encourageant, n'est-ce pas? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le verset 14 est bien plus encourageant que le verset 17. Certains, parfois, sont peut-être troublés par le fait que, par exemple, si vous cherchez sur Internet des choses chrétiennes, entre guillemets, des enseignements chrétiens, vous pouvez trouver tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Et certains sont troublés par cela, d'autres sont troublés parce qu'ils disent « Ah oui, mais il y a ce texte ancien depuis X siècles a enseigné autre chose que ce qu'on trouve ici. » Finalement, la Bible nous dit que, effectivement, depuis le tout début de l'Église, il y a eu ceux qui ont voulu rester fidèles à ce que Dieu a dit. Il y en a d'autres dont ce n'était pas le cas. Nous avons déjà lu 2 passages ce matin dans le Nouveau Testament qui parlaient de ça. Ici donc, l'apôtre Paul dit « Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. » Il veut dire que déjà, à l'époque où l'apôtre Paul était en train d'écrire à l'église de Corinthe, il y avait déjà tout et n'importe quoi qui était enseigné au nom de Jésus. Il n'y avait pas encore Internet, mais il y avait déjà ces enseignements, certains farfelus qui circulaient au nom de Jésus, mais qui falsifiait la parole. Dans le texte que Aldo nous a lu d'Apocalypse, l'apôtre Jean disait « Vous avez pesé ceux qui s'appellent apôtres, mais ne le sont pas. » Si on prend ce que dit l'apôtre Paul dans le verset 17 ici, ça nous montre l'importance de peser les choses en fonction de ce que nous ont laissé les apôtres. il y a toutes sortes de choses qui sont dites, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'idées qui circulent, soi-disant chrétiens, soi-disant évangéliques, soi-disant pentecôtistes. Nous devons, comme l'apôtre Jean a félicité l'église d'Éphèse, peser ce qui est dit en fonction de ce que nous ont laissé les apôtres pour savoir faire la part de ce qui est juste, de ce qui est faux, et ne pas falsifier la parole de Dieu comme font plusieurs, mais rester dans ce message qui a été laissé par les apôtres, qui ont parlé avec sincérité de ce que l'Esprit leur a communiqué. Et donc, l'Esprit a communiqué à l'apôtre Paul, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » C'est encourageant de savoir, comme nous a dit Alain la semaine dernière, que Dieu nous fait toujours triompher en Christ, puisque Christ est ressuscité. Donc même la mort n'est plus une défaite, mais a été transformé en triomphe, en victoire. C'est pour cela que, en tant que chrétien, notre manière de vivre les circonstances de la vie doit toujours être affectée, impactée, colorée par cette victoire de Jésus-Christ, le jour où il est sorti du tombeau. Pour cela que la résurrection de Jésus est un élément tellement important que nous devons intégrer dans notre vie et laisser cette réalité transformer notre manière de voir la vie et de concevoir la vie, comme on a entendu la semaine dernière. En Romains chapitre 5, les cinq premiers versets, l'apôtre Paul souligne cette réalité. Il dit « ça transforme tout notre vécu ». Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce de pouvoir connaître la paix, être en paix avec ce Dieu saint dont nous venons de parler, par la foi en Jésus-Christ qui nous conduit à mettre toute notre confiance en lui et dans ses voies. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Encore une fois, l'apôtre souligne le fait, n'oubliez pas, c'est à lui que nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas quelque chose qui m'est dû, c'est dû à lui. Et c'est uniquement parce que je l'ai reconnu comme Seigneur et Sauveur de ma vie, comme celui qui est mort pour moi sur la croix, que j'ai eu le droit par la foi d'accéder à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, dans le retour, dans le fait de se trouver pour l'éternité dans la présence de Dieu, c'est notre espérance, c'est la chose qui doit être la plus importante pour nous, notre priorité principale de dire, moi, ce que je désire, c'est de me trouver dans la gloire de Dieu. C'est déjà fantastique d'avoir cet avant-goût, cet aperçu que le Seigneur nous a donné par les arts, de son esprit qu'il a mis en nous. Mais l'apôtre Paul dit, pour l'instant, nous voyons comme à travers un miroir qui, à son époque, était fait de métal poli. Il dit, on voit vaguement pour l'instant, mais nous nous accrochons à cette espérance de la gloire de Dieu. Et nous nous en glorifions. Mais, il dit, mais en tant que chrétien, puisque Dieu nous fait toujours triompher en Christ, bien plus encore, nous nous glorifions même des afflictions. Est-ce que ce matin, nous glorifions des afflictions? Quand est-ce que la dernière fois, on a dit, oh, chouette, une affliction de plus. C'est pile ce que j'espérais. Mais Paul dit, si vraiment nous croyons que Dieu nous fait toujours triompher en Christ, on ne va pas être démoli par une affliction, désespéré devant une difficulté, parce que nous savons que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul dit donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, même dans les afflictions, nous sommes triomphants. Parce que Dieu agit et fait de sorte que nos afflictions produisent la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance qui ne nous laissera jamais tomber, mais qui nous permet justement de nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. C'est ce qui, depuis le tout début de l'Église, a permis même aux gens d'être prêts à sacrifier leur vie. Les martyrs des premiers siècles, de tous les siècles, même dans certaines parties du monde aujourd'hui, ont pu payer le prix de leur vie pour suivre le Seigneur parce qu'ils savent que même là, Dieu nous fait toujours triompher en Christ et transforme même leur mort en victoire. Je crois que c'est dans l'Apocalypse qui parle de ceux qui ont voulu une meilleure résurrection. Donc ils se sont accrochés à Christ, même si cela coûtait leur vie, parce qu'ils savaient que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Luc 12, versets 4 et 5, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Celui qui est capable, dans sa grâce, de nous faire toujours triompher en Jésus-Christ. La vie chrétienne, donc l'Évangile, la victoire de Christ a un impact énorme dans notre vie, qui transforme notre manière de concevoir la vie. Mais cette triomphe, cette transformation, selon l'apôtre Paul, va bien au-delà des simples circonstances de notre vie, de notre manière de traverser la vie. Paul dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc parmi les chrétiens et parmi les non-chrétiens. Partout où nous allons, nous sommes, où nous devrions être, le parfum de Christ que Dieu répand dans la société. Dans Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul, là aussi, avait souligné la transformation totale, radicale que devrait produire la vie chrétienne, le message de l'Évangile, la mort et la résurrection de Jésus dans notre vie. Donc Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Lorsqu'on devient chrétien, on fait un échange. Dieu nous propose dans sa grâce de faire un échange. Un échange avec Christ. Pour que la mort qui devrait être le résultat, la conséquence de mon péché, là où moi je devrais être celui qui est crucifié à cause de mon péché, il dit je suis prêt à faire un échange et dire ben, c'est Christ qui prend ta place. C'est Christ qui meurt sur la croix à ta place à cause de ton péché. Mais il dit, si tu acceptes cet échange-là, l'échange est total. C'est un échange pour toujours, un échange pour la vie. Ce n'est pas juste échanger ce moment-là où on prend une décision pour Christ en disant, bah oui, moi je veux bien que Christ prenne ma place, je suis prêt à échanger avec lui et que ce soit lui qui meurt sur la croix à ma place pour mon péché. Dieu dit, si tu veux cet échange-là, il faut accepter l'échange pour tous les jours après de ta vie, pour pouvoir dire avec l'apôtre Paul, du coup, si j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, car j'ai fait échange avec lui. J'ai échangé de place avec lui. Je lui ai demandé de prendre ma vie pour que ce soit lui qui subisse les conséquences de mon péché. Mais à partir de ce moment-là, j'accepte que pour toujours, on a échangé de place. Et donc la vie que je continue à vivre, je n'ai plus le droit de le reprendre et dire, ah ben, merci d'avoir pris juste ce moment-là, juste le moment de la mort. Je suis obligé de dire, je t'ai donné tout. J'ai fait cet échange avec toi, donc maintenant ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi parce qu'on a échangé de place. Pour que ce soit lui qui prenne ma mort. Mais ça veut dire que lui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est lui maintenant qui vit à travers moi. Qui vit à travers ma vie, qui vit à travers mon corps. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La vie chrétienne est censée être quelque chose de radicalement différent à la vie non chrétienne. C'est une vie où ce Dieu saint dont nous avons parlé tout à l'heure vit dans notre corps, vit à travers nous, fait ce qui lui plaît, continue sa vie à travers nous, parce qu'il y a eu cet échange. Le message de l'évangile n'est pas du tout l'idée que Dieu nous offre la possibilité de simplement venir à Christ pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Il dit ça, ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais devenir une meilleure version de vous-même parce que l'être humain est atteint du péché. Il dit, mais vous pouvez remplacer la personne que vous êtes par moi, échanger de place avec moi. Le message de l'évangile est encore moins l'idée que on peut venir à Christ afin d'après simplement continuer notre vie tel qu'on le souhaite, sans le moindre conséquence, puisque c'est lui qui a pris les conséquences. Ce n'est pas non plus une vie où je continue à vivre, mais j'ai un dispensateur de bénédiction dès que je le veux. La vie chrétienne est une vie bénie, à condition de comprendre la nature de ce que ça veut dire être béni par Dieu. Ce message de l'évangile, cette proposition que Dieu nous fait, cette grâce qu'il nous offre, les apôtres, justement, qui sont ceux qui ne falsifient pas la parole de Dieu, mais qui le prêchent sincèrement. Les apôtres ont dit, ce message est fondé sur la repentance. Hommes, frères, au jour de la Pentecôte, que ferons-nous maintenant devant ce message de l'Évangile, devant ce message de grâce? Repentez-vous et soyez baptisés en Jésus-Christ pour que vos péchés soient effacés. La repentance, c'est un peu comme ce que vous avez peut-être vu parfois dans les vitrines des magasins, quand on colle une affiche qui dit « liquidation totale pour cause de changement de propriétaire ». Tout doit disparaître. La repentance, c'est reconnaître, c'est mettre sur sa vie une affiche qui dit « changement de propriétaire ». Tout doit disparaître. Tout ce qui était là avant, tout ce qui est lié à ma nature humaine, tout ce qui est le fruit de qui je suis, doit disparaître pour être remplacé par le caractère d'un Dieu saint. Il y aura peut-être quelques éléments, quelques articles qui se trouveront dans ce nouveau stock qui est mis en place, mais tout doit être renouvelé, remplacé dans cette liquidation totale. J'accepte un échange complet avec le Seigneur, où ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit maintenant à travers moi. Ma vie lui appartient. Il a racheté ma vie. Tout est à lui. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Ça veut dire que lorsque les gens nous côtoient, ça ne devrait plus être nous qu'ils remarquent. L'odeur qui se dégage autour de nous ne devrait plus être le fruit de notre vie. Mais ça doit être l'odeur de Christ qui se dégage de nous, qui est répandue par notre vie. Lorsque on nous côtoie, les gens devraient pouvoir savoir par la suite qui et le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul écrivait à des chrétiens aussi à Corinthe en disant « Vous êtes mes épîtres vivantes. » Il y a des gens qui ne vont jamais lire les lettres que j'ai écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais vous, ils vont vous connaître, ils vont vous côtoyer, et c'est par vous qu'ils vont savoir ce que j'ai enseigné et quel est le travail que j'ai essayé de faire. Les gens devraient pouvoir examiner notre vie, nous côtoyer, discuter avec nous, nous observer, et dire, ah ben d'accord, c'est ça le Dieu des chrétiens. Voilà qui est ce Jésus dont il me parle. Quand je les regarde, je vois maintenant qui il est. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul avait parlé de Moïse lorsqu'il sortait du tabernacle à l'époque. Et il dit, Moïse était obligé de mettre un voile sur son visage parce qu'il reflétait tellement la gloire de Dieu lorsqu'il sortait du tabernacle, que c'était insupportable pour les gens autour de lui. Et puis il dit, nous tous, en parlant aux chrétiens, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il dit, nous, notre visage, notre vie devrait révéler qui est Jésus, refléter la nature de Jésus. Lorsque je parle, les gens devraient entendre ce que le Seigneur a envie de dire. la manière dont le Seigneur parle, dans ma manière de faire mon travail. Il devrait pouvoir voir la nature du Seigneur à l'œuvre, dans ma manière de traiter ma famille. Il devrait voir le cœur du Seigneur dans ma vie. Il y a certaines personnes, on sait toujours, quand ils sont entrés dans la pièce, on n'a même pas besoin de se retourner. Il faut simplement... Et on se dit, ah, ça c'est un tel. Bon, on espère, c'est parce qu'il porte un parfum agréable et que, ah oui, je sais qu'il porte ce parfum-là, donc je sais qu'il est entré. Il y a d'autres personnes, on est, ah oui, je sais très bien qu'il est là. Cette odeur annonce leur présence. On sait que c'est cette personne et ça reste après leur départ. Qu'est-ce que les gens sentent comme odeur quand ils nous côtoient? Est-ce que c'est moi qu'ils sentent ou est-ce que c'est le Seigneur? L'apôtre nous encourage donc à porter cette odeur de Christ. Comment est-ce qu'on le fait? Ben, quand on travaille en été et il fait chaud, on a tendance à transpirer et assez rapidement, on ne sent pas très bon. Quand on veut changer d'odeur, en disant « Oh, je ne voudrais pas que les gens sentent, me sentent comme ça. » Il va falloir que je fasse quelque chose. Enfin, généralement, on se lave et on se parfume. Dans psaume 51, verset 4, le psalmiste dit « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Le Seigneur propose par le sang de Jésus de nous laver de nos iniquités, de nos péchés. Tite 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Hébreux chapitre 9, verset 13 et 14, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Et dans le chapitre 10 de Hébreux, versets 21 et 22, « Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » La Bible nous dit que lorsque nous revenons à Dieu par Jésus-Christ, par le moyen de la foi, en mettant notre foi dans son sacrifice et en lui confiant notre vie, en effectuant cet échange, ou en permettant à l'Esprit d'effectuer cet échange par la foi, son sang nous purifie et nous lave de tout ce qui nous ferait sentir mauvais. 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, si j'obéis à Dieu plutôt qu'à mes propres désirs, Si je permets à Dieu de vivre à travers moi, ce qui va impliquer aussi le fait d'apprendre à connaître Dieu, de savoir ce qu'il veut pour ma vie et obéir à ce qu'il me dit, alors l'odeur de Jésus s'installe en moi. Et ce parfum-là commence à se répandre au-delà de mon odeur naturelle. Les gens vont pouvoir remarquer l'odeur de Jésus répandue par moi. Et lorsque l'odeur de Jésus se répand autour de nous, cela va provoquer une réaction auprès des gens, comme toute odeur. Pour certaines personnes, nous dit Paul, cela sera une réaction positive. Ils vont aimer cette odeur. Aux uns, ça va donner l'odeur de vie, donnant la vie. Vous avez peut-être déjà remarqué que parfois vous pouvez rencontrer un autre chrétien, vous commencez à parler du Seigneur et il y a quelque chose que vous remarquez chez cette personne. Vous ne la connaissez pas particulièrement, mais vous sentez la présence du Seigneur dans cette personne et c'est agréable. Tout de suite, vous vous êtes à l'aise parce que vous sentez l'odeur de Christ qui se dégage de la vie de cette personne. Parfois, donc, cette odeur va aussi être le moyen d'attirer des personnes que le Seigneur est en train d'appeler. Lorsque Dieu est en train de travailler dans la vie de quelqu'un et qu'ils ressentent Christ en nous, ça va les attirer vers lui. Vous savez, un peu comme quand on se promène parfois en été, le soir, tu passes devant une maison et tu dis, tiens, tu penses qu'on pourrait aller sonner chez eux et s'inviter pour le barbecue? Tellement ça sent bon. On est attiré par la bonne odeur. Il y a des gens aussi qui peuvent être attirés au Seigneur par l'odeur de Christ pour que par la suite, ils demandent raison de l'espérance qui est en vous, comme dit Pierre dans 1 Pierre 3,15. Et donc nous avons l'occasion de nous défendre avec douceur et respect en expliquant ce que c'est en nous que ces gens sentent. Mais il y a quelque chose. Quand toi tu es là, il y a une odeur que je ne reconnais pas. Qu'est-ce que c'est? Et on peut, à partir de là, expliquer d'où vient ce parfum. Mais Paul nous dit que parfois la réaction ne va pas être aussi positive. Parce qu'il dit, aux uns, nous sommes l'odeur de la vie, donnant la vie. Aux autres, nous serons l'odeur de la mort, donnant la mort. Certaines personnes, vous avez peut-être déjà remarqué, ne nous supportent pas. C'est même pas logique, c'est même pas raisonnable, c'est même pas raisonné. Il suffit qu'on soit là, et tout de suite, il y a une réaction. Finalement, l'apôtre Paul dit, c'est normal. C'est parce que lorsque l'odeur de Christ se dégage, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir être dans la présence de Christ. Donc il dit, à ce moment-là, il ne faut pas le prendre personnellement. Il ne faut pas réagir en disant, comment ose-t-il me prendre comme ça? Parce qu'il dit, ce n'est pas contre vous. Si vous dégagiez votre odeur naturelle, ils n'auraient aucun problème avec vous. Ce qui les gêne, c'est l'odeur de Christ qui se dégage. À condition, comme il dit dans le verset 17, qu'on ne falsifie point la parole de Dieu, qu'on est en train de vivre avec sincérité ce que Dieu demande de nous. C'est cette odeur de Christ qui est en train de se dégager de nous. C'est parce que, c'est comme il dit dans le 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. J'ai vu cette semaine, il y a, je crois, 5 ou 6 diplomates britanniques qui se sont fait expulser de Moscou. Je ne pense pas que c'était quelque chose de personnel contre eux. Ils disaient, ces gens-là, ils sont terribles. C'est plutôt, il y a des différends entre gouvernements et c'est celui qui représente ce gouvernement qui empathie, qui prend les conséquences. Nous, si on est ambassadeur de Christ, Si on dégage l'odeur de Christ, ben ceux qui ne veulent pas Christ, forcément, c'est nous qui les dérangeons, parce que nous portons son odeur. Luc 10, verset 16, Jésus disait, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » C'est le prix à payer lorsqu'on laisse Christ briller à travers nous. On doit être comme ses disciples d'Antioche. Les gens ont dit, on remarque que chez eux, il y a quelque chose de différent. Ils sont juifs, mais ils ne sont pas juifs. Ils sont habités par ce Christ dont ils parlent tout le temps. Et donc, à Antioche, les gens ont commencé à appeler les disciples des chrétiens, des gens appartenant à Christ. Ce n'était pas une étiquette religieuse inventée par des sociologues pour décrire telle ou telle partie de la population. C'était des gens qui ont reconnu en eux Christ. Et donc, eux, c'est des gens à Christ. Est-ce que les gens disent ça de nous? Est-ce que nous, ils nous appelleraient chrétiens si nous, on ne le faisait pas? Non pas en distinction des juifs, des musulmans, des hindouistes et des autres, mais parce que Christ est tellement central à notre vie. En Galates 4, verset 19, Paul disait que son objectif pour l'Église, c'était que Christ soit formé en vous. Donc devant une telle réaction, il faut les comprendre et les respecter. Comment est-ce que nous, on réagit devant une mauvaise odeur qui nous dérange? On change de place, on cherche à trouver la solution pour cette odeur-là. C'est drôle, n'est-ce pas? Parfois, les odeurs peuvent être bonnes pour les uns, mauvais pour les autres. Il dit que c'est le cas pour les chrétiens. Donc, quelle odeur dégage notre vie? Est-ce que lorsque les gens me côtoient, ils ressentent l'odeur de Christ? Ou est-ce que je vis de telle manière que mon odeur naturelle prime toujours par-dessus ce parfum que Christ désire que je porte. Si c'est mon odeur qui prenne le dessus, si ma vie ressemble plus à moi qu'à Christ, on revient encore une fois à cette invitation à la repentance que le Seigneur met devant nous. Que nous puissions avoir comme objectif de laisser l'odeur de Christ se répandre de notre vie. Prendre le dessus sur nous. Un parfum, c'est son rôle. Si ce matin, certains parmi nous vous êtes parfumés, c'était pour que ce parfum-là prenne le dessus sur l'odeur naturelle. Christ veut faire ça dans notre vie. Prendre le dessus. Être ce qu'on remarque. Soyons préparés à vivre les réactions à cela. Mais quelles que soient les réactions, c'est notre rôle. C'est ce que Dieu désire pour notre vie. C'est ce pourquoi il nous a sauvés. C'est pour que Dieu puisse non seulement nous faire toujours triompher en Christ, mais également pour qu'il puisse répandre par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, le parfum de Christ.